Bonjour à tous, je suis Mathias Dufour, président de Hashtag le plus important, et je suis très heureux d'ouvrir aujourd'hui cette série de petites vidéos qui vont présenter nos 20 propositions phares pour la campagne présidentielle. Notre idée clé, c'est qu'investir dans les compétences pour réussir une transition écologique et numérique inclusive doit être une priorité majeure du prochain quinquennat. Et c'est pourquoi nous proposons 20 idées simples, concrètes, efficaces, qui chacune faisant l'objet d'une petite vidéo comme celle d'aujourd'hui. Notre première proposition, c'est de réinventer et généraliser la VAE, la valorisation des acquis de l'expérience, pour répondre au double défi d'une société plus apprenante et plus inclusive. Alors pourquoi cette proposition? Parce qu'il est plus crucial que jamais de reconnaître et valoriser les acquis de l'expérience tout au long de la vie. C'est le cas en particulier pour les populations dites peu qualifiées, les plus touchées par la crise, dont la réalité des expériences et des compétences doit être mieux révélée et valorisée. Société apprenante et société de la connaissance doivent aller de pair. Alors, certes, la France a longtemps fait figure de précurseur en la matière, avec notamment la mise en place de la VAE, donc la validation des acquis de l'expérience en 2002. Mais force est de constater aujourd'hui, 20 ans après, que la VAE ne fonctionne qu'à une bien trop petite échelle. Il y a environ 26 000 personnes qui en bénéficient chaque année. C'est moins d'un actif pour 1 000, 0,1%. On est donc très loin du dispositif de reconnaissance à large échelle dont nous avons impérativement besoin aujourd'hui. Que faire? Nous proposons donc de réinventer, de généraliser la VAE pour répondre au double défi d'une société plus apprenante et plus inclusive. Concrètement, réinventer la VAE, c'est en faire un dispositif simplifié qui s'inscrit dans le parcours professionnel tout au long de la vie, qui sert au plus grand nombre, y compris aux entreprises. La VAE réinventée se fondera donc sur un portefeuille numérique de compétences, de pratiques professionnelles, reconnues par les pairs ou validées par des jurys d'experts en compétences, et qui évolue et s'enrichit simplement tout au long du parcours. Elle se caractérise par 5 inflexions majeures par rapport au dispositif actuel. Premièrement, il s'agit de passer d'un dispositif centré sur des diplômes à la reconnaissance plus large de pratiques professionnelles et de compétences, y compris des compétences qui peuvent être développées dans le cadre d'activités associatives, ainsi qui seront accessibles à un public beaucoup plus vaste, notamment pour les travailleurs peu qualifiés. Deuxièmement, il s'agit de passer d'une démarche ponctuelle de certification à une posture permanente de reconnaissance continue, et ça nous semble essentiel. Troisièmement, il s'agit de compléter le système de reconnaissance formelle basé sur des jurys d'experts et des référentiels figés par une reconnaissance plus collective, plus ouverte, fondée notamment sur l'endossement par des pairs et des référentiels mis à jour en temps réel. Quatrièmement, il s'agit de passer d'un outil centré sur la validation d'acquis à une logique de service, notamment par l'accompagnement des parcours professionnels, en simplifiant l'ensemble du dispositif. Et last but not least, il s'agit de passer d'un outil que seuls les actifs se sont appropriés à un outil qui soit aussi au service des entreprises et de leur gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, la GPEC. Alors, une expérimentation est déjà en cours, qui s'appelle REVA, au sein de Beta.gouv, au sein de l'État, mais elle bénéficie de moyens très modestes et elle a été lancée à cadre réglementaire constant. Alors que, même si une partie de son rôle consiste à préparer ces évolutions requises du cadre législatif et réglementaire, et donc nous sommes convaincus qu'un changement d'échelle est à prévoir en matière de moyens et que le cadre législatif et réglementaire doit impérativement être adapté pour sortir du carcan actuel de la VAE. Alors, quel est l'impact attendu? La réinvention de la VAE doit permettre de généraliser l'apprentissage tout au long de la vie et la reconnaissance et la valorisation en continu de ces apprentissages. Elle va contribuer à nous faire évoluer d'une société du diplôme à une société de la compétence. Concrètement, le bénéfice est multiple. D'abord pour les entreprises qui vont bénéficier d'une meilleure visibilité sur les compétences effectives des actifs et qui veut donc faciliter l'anticipation de leurs besoins, un meilleur ciblage des dépenses de formation et des recrutements. Les actifs, quant à eux, seront mieux valorisés, une meilleure visibilité, une meilleure reconnaissance de leurs compétences et vont donc aussi bénéficier d'une employabilité accrue, en particulier les publics fragilisés. Nous pensons qu'un objectif de 10 millions de personnes, 10 millions d'actifs, bénéficiant d'une VAE d'ici 5 ans est atteignable, ce qui représente environ 30% des actifs. On voit qu'on est très très loin des 0,1% qui en bénéficient chaque année. Voilà, merci à vous et à demain pour une nouvelle proposition.
Bonjour à toutes et tous, je suis Chris Delepierre, je suis membre du plus important et de l'association Reconnaître. Justement, je co-anime Badgeon les Hauts-de-France et je suis un des experts sur la question des badges numériques ouverts. Alors, les badges numériques, c'est une technologie qui s'impose comme l'outil phare de la reconnaissance des compétences de la prochaine décennie. Et c'est pourquoi nous proposons d'accélérer leur déploiement à échelle nationale afin de favoriser la reconnaissance des compétences de chacun. Alors, pourquoi cette proposition? Parce qu'elle permet de lever la contradiction, notamment entre la nécessité d'évoluer vers un apprentissage tout au long de la vie, pour tous les actifs, et le fait que la reconnaissance de ces apprentissages est aujourd'hui quasi exclusivement, en tout cas, fondée sur les diplômes, c'est-à-dire sur la formation initiale. Pour que l'apprentissage ne se limite pas qu'à cette formation initiale, mais intervienne véritablement tout au long de la vie, il faut qu'il soit reconnu et valorisé lui aussi tout au long de la vie. C'est peut-être là l'enjeu principal des badges numériques. Pour évoluer vers une société dite apprenante, nous devons promouvoir une société de la reconnaissance et les badges ont un rôle clé à jouer. Mais quand on dit badge, de quoi parle-t-on exactement? Alors, un badge numérique, c'est avant tout un dispositif numérique présenté sous la forme d'une icône, d'une image, dans lequel on va encapsuler des informations. C'est une représentation visuelle de l'acquisition d'une connaissance, d'une compétence, d'un savoir-faire, d'un savoir-être, d'une expérience, d'une participation à tel ou tel événement, un soutien, un engagement. En tout cas, tout type de reconnaissances peuvent être collectées dans le cadre du parcours professionnel ou dans le cadre d'engagement associatif d'une personne. Et ces badges permettent justement de reconnaître par celles et ceux qui puissent se reconnaître, ça peut être un père, ça peut être un employeur, un collègue, un partenaire, quelqu'un qui finalement interagit avec la personne en situation professionnelle et qui permet de renseigner les badges au fil de ses expériences. Alors, ça présente de très nombreux avantages, ces open badges. C'est facile d'utilisation, intuitif, dynamique. C'est aussi portable sur toutes les plateformes. On parle d'interopérabilité. Ça rend visible ses pratiques professionnelles et les compétences acquises. Ça peut être reconnu également par les pairs, par d'autres personnes, via des systèmes de recommandation. Pour augmenter la valeur des badges, ça permet justement d'avoir une granulométrie de reconnaissance variable par rapport à des diplômes traditionnels. Là, on peut badger des choses de façon beaucoup plus accessible. Et puis, à l'heure où les compétences évoluent de plus en plus vite, les badges peuvent offrir une cartographie dynamique et en temps réel des compétences qui permet d'éviter l'obsolescence de ces référentiels de compétences. Ça peut aussi servir à la fois aux travailleurs et aux entreprises comme un outil de motivation, mais également d'attestation pour une activité accomplie ou une compétence acquise. L'expérience, en tout cas, nous montre que quand on donne des badges aux personnes pour reconnaître leurs compétences, ils ont plus envie de se former. Dans un pays où moins d'un actif sur six bénéficie d'une formation chaque année, cela peut vraiment être décisif. Et réciproquement, les badges permettent de valoriser la formation en situation de travail au service d'une reconnaissance en situation de travail. On parle aussi de RAE, de reconnaissance des acquis de l'expérience, plutôt que d'une VAE, d'une validation des acquis de l'expérience. En France, en tout cas, la France, c'est aujourd'hui un pays leader sur les badges numériques. Mais pourtant, le déploiement de ces badges reste très local, très localisé ou très limité. Et on est encore loin, en tout cas, d'avoir exploré tous les usages, notamment au sein des entreprises. Donc, un changement d'échelle est vraiment possible et voire nécessaire pour capter pleinement leur utilité sociale. Alors, que faire concrètement? Pour déployer et accélérer ce déploiement à l'échelle nationale, tout d'abord, il nous semble indispensable de mettre toutes les parties prenantes, que ce soit les entreprises, les branches professionnelles, les partenaires sociaux, les acteurs publics, les opérateurs d'Open Badge, autour de la table pour co-construire ensemble un plan d'action. L'éparpillement des initiatives sans coordination est aujourd'hui un des principaux freins à leur déploiement. Et d'ores et déjà, parmi les éléments clés de ce plan d'action, nous proposons à la fois de lancer des expérimentations centrées sur des cas d'usage à plus forte valeur ajoutée pour les travailleurs et les entreprises, avec la perspective de faire passer ensuite les expérimentations les plus réussies à échelle nationale, de lancer un référentiel de compétences en open source qu'on appelle Wikicompétences ou Wikiskills, co-élaboré et mis à jour en permanence par l'ensemble des acteurs, d'inciter les entreprises à développer les usages des badges numériques et lancer un label public « Badgeons les compétences » pour valoriser les entreprises qui valorisent et qui délivrent des badges, de mandater les OPCO pour accompagner la création des badges numériques en entreprise, de rendre la délivrance des badges liés aux formations suivies progressivement obligatoires d'ici 3 à 5 ans, au moins pour celles qui sont financées par de l'argent public. Et puis enfin, permettre la prise en charge par le CPF des démarches d'accompagnement à l'adoption de badges numériques et à la validation de blocs de compétences grâce à ces badges. Alors, quels impacts nous pouvons attendre de ces initiatives? Eh bien, l'usage des badges, hein, c'est encore très minoritaire aujourd'hui, mais leur déploiement peut devenir viral et concerner d'ici 5 ans des millions d'actifs. Ceci contribuerait à plusieurs évolutions essentielles, notamment les entreprises percevront mieux quelles sont les compétences effectives des actifs et pourront donc mieux anticiper leurs besoins et mieux cibler leurs dépenses donc de formation et leur recrutement. Et puis, les actifs seront valorisés pour une meilleure reconnaissance de leurs compétences et bénéficieront d'une employabilité accrue, en particulier les actifs peu diplômés qui, croit-on, ont peu de compétences, mais qui ont un potentiel justement à valoriser leurs expériences d'un point de vue plus informel et donc qui ont le plus à gagner finalement à ce qu'on rende visible leurs compétences réelles. Et donc, le déploiement de ces badges numériques, ça peut être vraiment un accélérateur du passage d'une société du diplôme à une société de la compétence et de la reconnaissance. Voilà, il n'y a plus qu'à.
Bonjour à tous, je suis Rémi Roé, Data Gestion écologique et numérique sur l'emploi et les compétences. C'est de les comprendre, de les mesurer et les anticiper. C'est pourquoi nous proposons de créer un hub public de données sur le sujet. Pourquoi il faut agir? Cette proposition découle du fait que nous vivons une situation très paradoxale. La transition écologique et la transition numérique sont de lames de fond qui bouleversent les pans entiers de notre économie. Pourtant, personne n'a vraiment de vision nette sur leurs conséquences concrètes sur l'emploi et les compétences. Or, si on ne sait pas à quoi s'attendre, si on ne peut pas anticiper, on ne peut pas prendre les bonnes décisions. On est même sûr d'en prendre de mauvaises. C'est ce que nous appelons un tsunami dans un angle mort. La coexistence d'un chômage de masse et de fortes pénuries de main-d'œuvre dans les emplois numériques et verts, conséquence d'un manque d'anticipation collectif, illustre l'absurdité et la gravité du problème. Prenons l'exemple de la santé qui connaît des transformations majeures avec le numérique, la robotisation et l'IA. Personne n'est aujourd'hui capable de dire en quoi ces techs vont à horizon de 5 ou 10 ans changer les pratiques, les compétences requises, la productivité, le nombre de professionnels dont nous aurons besoin par spécialité. Certes, on pourrait se dire 5 ou 10 ans, c'est long, on a le temps. En réalité, comme il faut plus de 10 ans pour former des médecins, le coût est déjà parti. On continue donc à former des étudiants en médecine comme si de rien n'était. Voilà ce que nous entendons par tsunami dans un angle mort. Certes, il y a une multitude d'acteurs qui produisent des données et des analyses sur les impacts des transitions écologiques ou numériques sur l'emploi. La DARES, France Stratégie, les observatoires de Pôle emploi et ceux des branches professionnelles, l'ONMF sur l'économie verte, l'Observatoire de la Grande École du Numérique, le Shift Project, pour n'en citer que quelques-uns. Mais ces données, ces analyses sont disparates, hétérogènes. Elles sont souvent incomplètes. Elles ne sont pas toujours accessibles ou sont peu exploitables par les acteurs qui en ont besoin. D'où la nécessité de rassembler ces données dans un service unique, de les compléter, de les valoriser et de les rendre disponibles à tous les acteurs, qu'ils soient décideurs publics, entreprises ou même les travailleurs individuels. C'est tout l'enjeu et l'ambition de nos propositions. Que faire? Nous proposons de mettre en place un hub public de données sur les emplois et les compétences de la transition écologique et numérique. Ce hub public de données rassemblerait 3 types de services. Premièrement, un data pool pour rassembler les données existantes, les consolider et les compléter pour couvrir tous les besoins, par exemple en incluant différents horizons de temps, 3, 5 ans, 5, 10 ans, 20, 30 ans, ou en approfondissant les impacts territoriaux de la transition écologique et numérique. Ensuite, nous proposons un Data Lab pour exploiter et valoriser ces données par des analyses comme des outils de modélisation en établissant des liens avec l'offre et les besoins de formation initiale ou lead. Enfin, un Data Viz pour mettre à disposition ces données et analyses de façon très simple à comprendre et à utiliser avec des services de data visualisation comme de la cartographie, par exemple, dans une logique de diagnostic et d'aide à la décision pour les différents publics cibles. Ce hub peut être mis en place avant la fin de l'année. Il n'a pas vocation à se substituer aux acteurs existants, mais plutôt à travailler en coordination avec eux, ce qui suppose une gouvernance à la fois portée par l'État et multipartite, ouverte à des acteurs externes comme les partenaires sociaux. Quel impact attendu ? En donnant de la visibilité sur les effets de la transition écologique et numérique sur les emplois et les compétences, ce hub public de données va aider tous les acteurs à mieux les anticiper et donc à mieux les préparer. Concrètement, le bénéfice sera multiple. L'État et les acteurs publics pourront adapter plus vite et de façon plus pertinente les politiques de formation initiale et continue, d'orientation professionnelle aux impacts de la transition écologique et numérique sur l'emploi. Les entreprises et les branches professionnelles pourront mener des politiques RH de recrutement, de formation, de gestion des compétences plus en phase avec la réalité des besoins et de manière aussi plus préventive avec au final moins de pénurie de main-d'œuvre. Enfin, les actifs aussi à titre individuel pourront plus facilement identifier les métiers qui recrutent et les compétences demandées liées à la transition économique et numérique et s'y adapter en conséquence avec donc un meilleur accès à l'emploi. Merci à tous et à demain pour une nouvelle proposition, elle aussi centrée sur l'enjeu de former 100% des actifs concernés aux compétences de la transition écologique et numérique.
Bonjour à tous, je suis Claire Stried, conférencière et membre du think tank hashtag le plus important. Investir dans les compétences pour réussir une transition écologique et numérique inclusive doit être une priorité majeure du prochain quinquennat. C'est pourquoi nous proposons aujourd'hui d'accélérer le développement de la formation en situation de travail, avec l'objectif d'en faire bénéficier d'ici 3 ans 100% des salariés concernés par cette transition. Pourquoi agir ? Pourquoi cette proposition ? Selon un rapport du Forum économique mondial sur l'avenir de l'emploi, d'ici 2025, 50% de tous les employés auront besoin d'une requalification. Autre chiffre clé à retenir, selon l'OCDE, la durée moyenne de vie d'une compétence était de 30 ans en 1987, elle serait aujourd'hui de 2 ans. C'est dire la nécessité d'adapter les compétences à ces mutations aussi rapides que massives. Le développement de l'apprentissage tout au long de la vie est au cœur de cette adaptation. Or, les formations initiales ou classiques ne suffiront pas à elles seules à répondre aux besoins. Il est donc essentiel de mobiliser de nouvelles modalités de développement de compétences. Au premier rang de celles-ci figure la formation en situation de travail, appelée communément la FEST. Comme son nom l'indique, la FEST, c'est de la formation pendant et sur son lieu de travail. Introduite dans la loi en 2018, c'est une modalité à part entière pour se former. Plus précisément, elle contient 6 ingrédients incontournables. Du temps dédié, un accompagnement personnel, des objectifs pédagogiques, des actions de mise en situation, à FEST, des séquences réflexives et un dispositif d'évaluation du parcours. La FEST est un dispositif particulièrement prometteur. Elle permet de faire évoluer les entreprises vers des organisations plus apprenantes, en améliorant notamment la transmission des compétences en interne. Elle leur permet de former plus facilement leurs collaborateurs et à un coût réduit. Elle permet d'individualiser les parcours d'apprentissage au rythme de l'apprenant. Elle rend les salariés plus actifs et plus autonomes dans leur propre développement, aidés en cela par leur pair qui se voit reconnu comme formateur interne. Elle facilite l'accès à la formation des personnes éloignées de la formation professionnelle. Ces modalités plus concrètes sur le mode « j'apprends en faisant » avec le droit à l'erreur répondent bien mieux aux principes d'apprentissage des adultes. Dispositif agile, la FEST est toujours disponible. Elle produit des compétences immédiatement mobilisables. Selon une enquête d'EmpowerWheel, le parcours de formation avec la FEST serait entre 4 fois et 6 fois plus rapide. Elle accélère l'intégration de nouveaux arrivants et permet ainsi de pallier aux difficultés de recrutement sur les métiers en tension. Au total, la FEST est donc un levier d'action particulièrement pertinent pour adapter rapidement et à large échelle les compétences aux besoins de la transition écologique et numérique. Pourtant, malgré ses avantages considérables, sa mise en place est lente. Une action volontariste est donc requise pour accélérer son développement. Que faire ? Comment faire concrètement pour accélérer et même généraliser le déploiement de la FEST ? Le premier frein majeur à lever, c'est celui du modèle économique de la FEST. Sa préparation et son organisation sont coûteuses, tandis que ses coûts de réalisation, ceux qui sont pris en charge, sont très faibles, les apprenants étant semi-autonomes et l'accompagnement souvent fait en interne. Il faut donc inverser le modèle. Le financement devrait être centré non pas sur les actions elles-mêmes, mais sur tout ce qui concourt au déploiement d'une AFEST de qualité, notamment la conception des parcours pédagogiques, leur accompagnement par des architectes accompagnateurs, la certification des acteurs, la digitalisation des outils de traçabilité, etc. En complément, financeurs et entreprises pourraient être directement incités à faire de l'AFEST une priorité, par exemple par des subventions spécifiques à la mise en place d'organisations favorisant le déploiement de l'AFEST. S'il le faut, ces financements pourraient être réservés aux PME ou aux entreprises de moins de 500 salariés. Ces subventions venant in fine réduire les dépenses futures de formation. Il s'agirait pour l'État, non pas tant de dépenses que d'investissements. Nous proposons d'ouvrir l'AFEST à l'apprentissage. Curieusement, la loi ne le permet pas aujourd'hui, alors que, selon les termes de Marc Denry, elle pourrait lui redonner ses lettres de noblesse pédagogique. Intégrer l'AFEST dans un parcours d'apprentissage, c'est parvenir enfin à la vraie formation en alternance, celle où le parcours en entreprise n'est pas juxtaposé à celui d'une école, mais intégré. Last but not least, il importe de renforcer l'attractivité de l'AFEST pour les travailleurs eux-mêmes. La reconnaissance est un levier clé pour promouvoir les apprentissages. Les employeurs pourraient donc associer la délivrance de badges numériques à l'AFEST pour reconnaître et valoriser les compétences acquises. Quel impact attendu ? Le déploiement de l'AFEST à large échelle doit vraiment être une priorité et sa généralisation peut intervenir rapidement. Nous proposons donc de viser que d'ici 3 ans, 100% des salariés concernés par la transition écologique et numérique aient bénéficié d'une AFEST. Cette ambition sera porteuse d'une double dividende, des compétences et une employabilité accrue pour les salariés, une meilleure compétitivité et de moindres pénuries de main-d'œuvre pour les entreprises. Alors allons-y.
Bonjour. Je suis Nathalie Bassalaire, la directrice de la communication et des affaires publiques du think tank Hashtag le plus important. Investir dans les compétences pour réussir une transition écologique et numérique doit être une priorité du prochain quinquennat. C'est pourquoi nous proposons aujourd'hui d'élargir la grande école du numérique à une grande école de la transition inclusive pour garantir une meilleure adéquation entre l'offre et la demande de formation aux compétences et aux métiers de la transition écologique et numérique. Pourquoi cette proposition ? La double transition écologique et numérique de notre économie est d'une ampleur inédite. Elle transforme profondément les métiers et les compétences requises par les entreprises. Elle appelle donc une adaptation elle-même massive et rapide des qualifications et des compétences des travailleurs. Or, la coexistence d'un chômage de masse et de fortes pénuries de main-d'œuvre dans les emplois numériques verts et verdissants montre que nous sommes très loin de l'objectif. Pour accélérer cette adaptation des compétences et éviter un double gâchis économique et social, il faut agir vite et fort. L'enjeu est que 100% des personnes qui en ont besoin soient formées d'ici 5 ans aux compétences et aux métiers de la transition écologique et de la transition numérique. C'est pourquoi nous proposons de lancer une grande école de la transition inclusive. Elle aura notamment pour mission d'assurer une meilleure adéquation entre l'offre et la demande de formation pour toutes les compétences de la transition écologique et numérique. Concrètement, que faire ? Les missions de la grande école de la transition écologique et numérique inclusive consistent à être un animateur de place des formations. Concrètement, ça veut dire quoi ? Premièrement, donner une visibilité d'ensemble sur les besoins de formation initiale et continue en matière de compétences et de métiers liés à la transition écologique et numérique, notamment par une coordination étroite avec le hub public de données sur les compétences que nous proposons par ailleurs de mettre en place. Qu'il soit ou non effectif, la grande école aura de toute façon besoin de s'appuyer sur une analyse fine des besoins. Deuxièmement, assurer l'adéquation entre l'offre et la demande de formation, en favorisant, en cas de besoin mal couvert, l'émergence d'une offre adaptée, par exemple par des appels à projets ciblés ou par l'aide à l'échelle de formation, de formation pertinente. Troisièmement, faciliter l'orientation des publics concernés par ces formations, notamment via une plateforme recensant l'ensemble de l'offre de formation disponible et articulée avec son compte personnel de formation. Quatrièmement, favoriser l'accès de tous les publics à ces formations, notamment via l'attribution d'un label Grande École de la Transition Inclusive, ouvrant droit à des aides publiques. Cette vocation d'inclusion professionnelle par la formation est d'ailleurs au cœur de ce projet, d'où son nom de Grande École de la Transition Inclusive. Enfin, cinquièmement, animer la communauté des acteurs des formations à la transition écologique et numérique, notamment pour renforcer les coordinations, les synergies, les partages de bonnes pratiques et mise en réseau des différentes initiatives. Vous l'avez compris, le terme de grande école ne signifie pas qu'il s'agit d'un organisme de formation en tant que tel. Elle ne va pas directement former. Ce terme renvoie d'ailleurs à la grande école du numérique, que la grande école de la transition inclusive a vocation à absorber dans un cadre et des missions plus ambitieuses. Nous nous inspirons en cela, en partie, des travaux menés par Ticket for Change et la coalition d'acteurs. L'heure est en effet venue d'élargir à la fois les missions et le périmètre de la grande école du numérique, laquelle avait été créée en 2015 pour favoriser les formations au métier du numérique pour des publics fragilisés, et élever le niveau d'ambition. Élargir le périmètre, d'abord de deux façons. D'une part, en visant non pas seulement les métiers du numérique, comme aujourd'hui, mais aussi le numérique dans les métiers, dimension tout aussi fondamentale de la transformation numérique de notre économie. D'autre part, en incluant la transition écologique. Ces deux transitions concernent tous les secteurs. Nous avons donc besoin d'un outil transversal, alors que les opérateurs de compétences, les OPCO, sont organisés silos par secteur économique. Comme les publics visés sont proches, les entreprises également, que le mode opératoire est le même, autant traiter ensemble cette double transition plutôt que d'avoir deux grandes écoles jumelles avec les risques de doublons et de confusion qui iraient avec. Élargir les missions, ensuite, pour garantir une meilleure adéquation de l'offre de formation aux besoins, c'est l'ambition de devenir un animateur de place, ce rôle que ne joue pas aujourd'hui la grande école du numérique. Enfin, changer d'échelle. Avec une visée plus large, la grande école du numérique forme environ 15 000 personnes éloignées de l'emploi par an. La grande école de la transition écologique a une visée beaucoup plus large. Quel impact en attendre ? Un objectif de 500 000 personnes formées chaque année pourrait être fixé, soit 2,5 millions de personnes sur l'ensemble du quinquennat. Le bénéfice attendu est multiple. Réduction des pénuries de main-d'œuvre, compétitivité accrue via une main-d'œuvre qualifiée pour les entreprises qui vont donc aussi créer de l'emploi. Employabilité accrue pour les travailleurs et en particulier les publics fragilisés et accès à de nouvelles opportunités d'emploi. Merci à tous et à demain pour une nouvelle proposition, elle aussi centrée sur l'enjeu de former 100% des actifs aux compétences de la transition écologique et numérique.